Des poissons bizarres, un concert dans un salon et une artiste découverte sur MySpace, c'est le programme de ce 114e épisode. Allez, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans le 114e épisode de Reconversion, le podcast des meilleures reprises. Un épisode que je souhaitais faire depuis très longtemps, mais que j'avais mis un peu de côté pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois du groupe derrière la version originale, et j'aime bien essayer de pas trop me répéter dans le podcast. Bon ok, mis à part quand je parle d'Aneke, ou de John Frusciante, ou de Mark Lanegan, ou de The Cure, ou de Depeche Mode. Bon, si j'avais des haters, ils diraient que mes épisodes tournent autour de 4 artistes, mais j'ai heureusement trop peu d'audience pour en avoir. Charge à vous de m'en trouver donc, en parlant du podcast autour de vous, en allant par exemple déposer un avis Apple Podcast ou Podcast Addict, qui me fera remonter dans les algorithmes et donc m'offrira davantage de visibilité, avec de fil en aiguille de plus en plus de suiveurs et donc des haters qui viendront me dire que je parle toujours des mêmes artistes. Blague à part, je m'étais fixé comme objectif au moins 80 avis Apple Podcast d'ici la fin de saison, et je reste un peu bloqué à 74. Donc si vous aimez mon travail, clairement, ça fait partie des trucs qui m'aident le plus, vous le savez, tant en termes de référencement, mais aussi et surtout en termes de motivation. Place à la musique donc. Pour le groupe derrière la version originale, je l'ai abordé en réalité qu'une seule fois dans Reconversion, lors de l'épisode consacré à Street Spirits, mais on en a régulièrement parlé avec Damien dans Super Cover Battle, pour la bonne raison que c'est un groupe très influent, et qui dit groupe influent dit groupe copié, imité et donc repris, et pas qu'un peu. Ce groupe, c'est Radiohead. Vous l'aurez sans doute deviné au titre de l'épisode si vous connaissez bien leur discographie, quand bien même la chanson en question n'est pas forcément une de leurs plus connues. D'ailleurs, petit point statistique Spotify, qui sont, je le rappelle, un repère plus qu'un gage de qualité. Et pour Radiohead, la chanson justement la plus streamée, et bien évidemment à leur grand désespoir puisqu'ils ne la supportent plus depuis bien longtemps, c'est Creep, avec 1 565 millions d'écoutes, là où Weird Fishes, la chanson d'aujourd'hui, plafonne avec des énormes guillemets à 184 millions d'écoutes. En revanche, plus surprenant, c'est la chanson la plus streamée d'In Rainbows, leur 7e album, sorti en 2007. In Rainbows est un album que j'aime beaucoup et chose assez curieuse, quand bien même c'est pas mon disque préféré de Radiohead, qui est sans la moindre once d'originalité OK Computer, eh bien il comporte certains de mes titres préférés du groupe. Jigsaw Falling Into Place et surtout Reconner, dont j'ai déjà dû vous dire plusieurs fois qu'elle était inspirée par un certain John Frusciante. Et j'aime aussi beaucoup Weird Fishes Arpeggi ou Arpeggi, je sais même pas comment on dit, mais avant d'en dire plus sur le sujet, il y a quand même 2-3 bricoles importantes à dire sur l'album. Un album assez novateur dans l'industrie musicale de l'époque, et pas que sur un plan artistique. Avant la sortie d'In Rainbows, la bande Atom York n'est plus sous contrat avec sa maison de disques. Les Anglais, sûrs de leur fait quant à l'adhésion de leurs fans, décident de distribuer l'album uniquement sur leur site internet, avec la possibilité de faire un don en échange du téléchargement. L'album est mis à disposition sur leur site le 10 octobre 2007, et 2 jours plus tard, In Rainbows s'est téléchargé 1,2 million de fois au prix moyen de 1 livre, soit 1,16€, ce qui équivaut au global à une rondelette somme de 1 392 000 euros. Réussite totale pour Radiohead, puisqu'ils empochent la totalité de cette somme, sans intermédiaire ou presque. Encore plus remarquable, le fait que Radiohead va gagner plus d'argent avant la sortie physique d'In Rainbows, parce que oui, il finira par sortir en CD, que lors de toute la commercialisation de Hail to the Thief, l'album précédent. Toujours sur le sujet, c'est intéressant de voir aussi certaines conclusions qu'on peut tirer de cette manière de publier de la musique. Pour rappel, on est alors en 2007, l'ère du streaming en est à peine à ses balbutiements, Spotify est créé en 2006, là où le téléchargement pirate est monnaie courante avec les Imul, Kazaa et autres logiciels peer-to-peer à la portée de n'importe qui, même des brels en informatique, j'en suis la preuve vivante. Et donc, un des journalistes du New Musical Express, magazine musical anglais de référence en tout cas à l'époque, dit alors la chose suivante.
In Rainbows a constitué un moment d'une importance et d'une influence considérable, inspirant les groupes d'aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que cela a montré que la meilleure réponse au piratage est d'explorer de nouvelles voies, légales, de mettre la musique entre les mains des fans. Ne vous attardez pas sur la méthode, ce prix libre, voyez-y juste un exemple de Radiohead cherchant de nouvelles voies. La deuxième raison, c'est que ce disque n'a en aucun cas tué l'idée qu'il fallait payer pour la musique. Ce qu'il a fait cependant, c'est montrer que cette idée pour distribuer un album était attendue depuis longtemps. Pas seulement parce que les gens voulaient payer moins ou rien du tout, mais parce que beaucoup d'entre eux voulaient payer plus.
Bon, compte tenu de l'état de l'industrie du disque aujourd'hui, la question est sans doute plus complexe que ça, mais la réflexion est intéressante, je trouve, et à ce titre, In Rainbows constitue presque une première. Car oui, mettre sa musique librement sur son site a été fait avant, à une autre échelle, par un artiste dont on reparlera très vite, d'ailleurs, à savoir Prince, qui en 1998 avait décidé de lancer un single sur Internet en demandant aux acheteurs de payer la somme qu'ils désiraient en vue de la reverser à des œuvres caritatives. Et vu l'état des connexions Internet en 1998, le retentissement fut évidemment tout autre. Alors on va quand même parler musique, et plutôt que de vous raconter pourquoi j'aime Weird Fishes, eh ben j'ai de nouveau délégué, en confiant un petit bout de l'épisode à quelqu'un qui aime beaucoup le groupe, et dont j'aime beaucoup le travail sur Internet. Pas de podcasteur cette fois, mais un youtubeur, à savoir Sacha de l'excellente chaîne Tangerine, dont vous trouverez évidemment le lien dans les notes.
Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous, je suis très honoré d'être invité aujourd'hui pour vous parler de Weird Fishes Arpeggi de Radiohead, qui est l'un de mes morceaux préférés du groupe. Ne me demandez pas lequel spécifiquement est mon préféré, pour Radiohead c'est trop difficile de choisir. Pour préparer au mieux mon intervention, j'ai réécouté à plusieurs reprises l'album In Rainbows, duquel le titre est issu. Et j'en suis arrivé à l'interrogation suivante, mais comment le titre Weird Fishes Arpeggi sort-il son épingle du jeu? Comment se rend-il si singulier dans cet album? Quelle recette a permis d'en arriver là? Et surtout, comment est-ce que des années après, ce titre reste toujours aussi symbolique et ne semble pas avoir pris une seule ride? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de décortiquer pour vous pendant ce moment qui nous est accordé. Fishes Arpeggi est le quatrième titre sur 10 de In Rainbows, le septième album du groupe. Lors de sa diffusion, ce disque apparaît comme une surprise. Le groupe, qui habituellement sort un album tous les ans ou tous les deux ans, n'a rien sorti depuis Hail to the Thief en 2003, et surtout, le groupe n'est plus rattaché à un label. Ils viennent de terminer leur contrat avec XL Recording. Cet album est moins politique, beaucoup plus introspectif et personnel dans les paroles, mais également à travers les compositions instrumentales. On y retrouve un set rock classique, guitare, basse, batterie, mais également des claviers pour les phases électroniques telles que les ondes Martenot et des instruments à cordes. Pour comprendre un peu mieux le titre Weird Fishes Arpeggi et les effets qui s'en dégagent, il faut remonter en 2005. Le groupe performe pour la première fois le morceau Royal Albert Hall de Londres, deux ans avant sa sortie officielle, avec le London Sinfonietta, qui est un orchestre de chambre anglais installé dans la capitale, et l'orchestre arabe de Nazareth. Cette première version, quelque peu différente du titre définitif présent dans l'album, propose une écoute plus orchestrale. Ça, je pense que vous l'aviez compris. Mais elle propose surtout une vision assez épique du titre, notamment grâce aux instruments à cordes. Lorsque je dis épique, j'entends par là genre musical dérivé de musique de film, avec des codes issus du domaine cinématographique. Beaucoup des titres de Radiohead sont rattachés au genre épique. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ont obtenu leur notoriété. Leurs morceaux ont accompagné énormément de séries et de films dans les années 90, contribuant à leur faire une publicité fantastique et à créer de vrais moments d'émotion sur nos écrans. Au moment de la sortie de Weird Fishies Are Peggy, Ed O'Brien, le guitariste du groupe, avait cité le morceau comme exemple d'une chanson dont la portée était manifestement épique. Et c'est là que le titre vient en tirer toute sa force. D'un côté, nous avons une construction musicale assez minimaliste et subtile, pour la basse et la batterie, et d'un autre côté, une construction beaucoup plus harmonieuse pour les guitares. On va rentrer dans une analyse un peu technique avec du vocabulaire issu du solfège. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer pour que celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces termes le soient pour la compréhension de ce titre. La première guitare, celle de Ed O'Brien, pose une suite d'arpèges sur les accords Mi mineur, Fa mineur, La majeur et Sol mineur. Un arpège, c'est une série de notes appartenant à un même accord. C'est-à-dire que l'on va prendre l'accord Mi et jouer toutes les notes les unes après les autres, et non en une fois. Donc, Ed O'Brien pose une suite d'arpèges. Ensuite, au quatrième chorus, la deuxième guitare, celle de Thom Yorke, pose la même suite d'accords avec des arpèges différents. C'est-à-dire qu'il joue les mêmes accords que Ed O'Brien, donc Mi mineur, Fa mineur, La majeur et Sol mineur, mais sur des cases différentes de sa guitare, pour générer d'autres tonalités. Et une troisième guitare à 1 minute 48 apparaît, celle de Johnny Greenwood, basée sur le même schéma que celle de Thom. On a donc une superposition de trois arpèges issus des mêmes accords joués sur des tonalités différentes. En gros, ce sont les trois mêmes accords joués de manière répétitive sur des notes différentes mais complémentaires. Cette composition tire son inspiration de musique répétitive et minimaliste sous un angle rock épique à la sauce Radiohead. Et c'est ça l'essence même de cette chanson. C'est d'ailleurs mentionné dans la deuxième partie du titre, Weird Fishies Arpeggy, qui vient de l'anglais arpeggio, traduit en français arpège. En plus de cette composition harmonieuse, il y a bien évidemment la voix de Thom Yorke qui fait toute une partie du travail. Elle est accompagnée d'un effet de réverbération sur la dernière syllabe de chaque vers. Et ce n'est pas juste un simple effet de second plan. On arrive à dissocier cette voix sous réverbération comme si elle était un autre instrument dans la chanson. Il y a donc une vraie harmonie entre les instruments et la voix qui opère dans ce titre. C'est notamment ce côté harmonieux qui attise notre oreille et la fidélise pendant toute l'écoute. Concernant les paroles, elle traite de la solitude, de l'espoir et de la séduction à travers des métaphores de l'océan et des poissons. Toute la mélodie exprimée par le timbre de voix et le ton employé par Thom Yorke reflète bien la tristesse des propos évoqués dans ce titre. Et c'est la cohésion entre tous ces éléments qui vont venir créer un équilibre du genre épique et rock au sein du titre. C'est également ce qui va lui apporter un caractère aussi distinct comparé aux autres morceaux de ce 7e album. C'est selon moi l'une des raisons pour lesquelles, des années après, ce titre et cet album n'ont pas bougé et restent intemporels. Weird Fishies Are Peggy est aussi un très bel exemple de toute la magie et de l'ingénierie qui opère derrière un titre de musique. Ce n'est pas toujours que des paroles posées sur des instruments. Je vous quitte là-dessus, pour le reste je rends la parole à Maxime, merci de m'avoir écouté et bonne continuation.
Un grand merci Sacha pour ta participation et un double merci puisque je te suis aussi redevable d'une de mes grandes découvertes de l'an dernier dont j'ai peut-être un peu parlé à qui voulait bien m'entendre, à savoir Blanchel. Alors c'est pas de Blanchel que je vais vous parler maintenant, mais d'une autre voix féminine dont le style musical semble pourtant au premier abord aux antipodes de Radiohead. Une artiste anglaise, née d'un père grec et d'une mère jamaïcaine, et dont je situerai la voix quelque part entre Sade et Alicia Keys. Please stop asking, do you still love me? Don't know what to say, let's speak in the morning. Please don't do this, I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. No more hanging around. Oh, no more hanging around. Oh, now my sun's going down. Oh, telling me something isn't right, something isn't right. Oh, bittersweet summer rain. Born again, all my broken pieces. Venez d'écouter Bittersweet de Liane La Havas, fantastique chanteuse et musicienne, dont j'ai découvert la musique il y a 3-4 ans avec son troisième album appelé tout simplement Liane La Havas, dont Bittersweet est un des titres phares. Je m'en souviens très bien puisque le hasard a fait que j'ai découvert deux autres artistes féminines à peu près en même temps, deux autres chanteuses britanniques, confirmant le fait qu'en matière de musique, d'une manière générale et pas seulement dans le rock, l'Angleterre écrase le reste du monde de son talent. Il y avait donc Arlo Parks, dont le premier album Collapsed in Sunbeams tourne toujours très souvent chez moi, et Georgia Smith, dans une veine soul hip-hop plus affirmée, et dont je ne saurais que vous conseiller le premier album Lost and Found. D'ailleurs, coïncidence totale, le premier EP de Liane La Havas, sorti en 2011, s'appelle également Lost and Found. Alors je ne vous diffuse pas d'extrait, mais le premier titre de cet EP, No Room for Doubt, est un duo avec Willie Mason, un chanteur folk américain un peu inconnu par chez nous, mais qui a une jolie carrière outre-Atlantique et qui se trouve avoir chanté sur deux morceaux de l'album Hawk d'Isobel Campbell et Mark Lanegan. J'ai cité Frusciante tout à l'heure, Lanegan maintenant, le bingo reconversion est presque complet, manque une référence à une certaine chanteuse néerlandaise, mais je suis pas sûr de réussir à la placer. Revenons à Liane La Havas donc. Je le disais juste avant, elle est née d'une maman jamaïcaine et d'un père grec. Et tout ça s'entend un peu dans sa musique. En tout cas, pour la partie caribéenne, j'ai pas franchement remarqué d'influence grecque sur ses albums. Mais c'est son père qui va l'initier au jazz, pendant que sa mère lui fait découvrir les grandes voix soul et R&B de Michael Jackson à Stevie Wonder, qui sont pour le coup des influences qu'on va retrouver davantage dans ses chansons. Liane La Havas fait ses premières armes sur MySpace, où on la remarque dès 2008, puis va devenir choriste pour Paloma Faith, dont je découvre le nom pour l'occasion, et elle va finir par se faire repérer par Warner, avec qui elle signe en 2010 à l'âge de 21 ans. Et là se pose comme souvent le problème des étiquettes, à plus forte raison quand on est issu de la « diversité » entre guillemets. Elle le dit elle-même très bien dans une interview de l'époque.
Je ne pense pas avoir été la seule artiste non blanche sur le label Warner, mais j'étais la seule de mon âge. Je ne répondais pas aux stéréotypes de la chanteuse de R&B traditionnelle, je naviguais entre les genres. Personne ne savait dans quelle case me placer, car je jouais de la guitare et que j'avais une immense coupe afro.
Son premier album, Is Your Love Big Enough, sort en 2012, avec une partie des chansons présentes sur son premier EP. Avec un succès critique très important, Liane La Havas étant présentée comme la relève de cette scène R&B néo-soul, même si j'aime pas beaucoup ce terme. Et puis, une rencontre, en 2012, va tout changer, alors pas tant pour sa notoriété, encore que, mais une rencontre avec une personne qui va lui apporter beaucoup sur le plan musical, personnel et créatif.
Un jour, mon agent me dit que Prince l'avait contacté après m'avoir vu chanter sur Internet. Il t'appelle demain. C'était tellement surréaliste que le lendemain, j'ai oublié mon téléphone à la maison. J'ai cru avoir raté l'occasion de ma vie jusqu'à ce que je l'aie au bout du fil. On a parlé de musique et il m'a invité à Minneapolis, dans ses studios de Paisley Park. Le reste s'est enchaîné comme dans un rêve. Il m'apprenait des sorcelleries sur la guitare et j'ai chanté avec lui devant 10 000 personnes. Il a donné sa dernière conférence de presse et un concert dans mon appartement à Londres. Il m'écrivait, m'envoyait des chansons, me disait d'aller au bout de mon art, d'emmener les gens vers une destination de paix et d'amour.
Prince va devenir, pour ainsi dire, son mentor et va l'inviter sur scène à un de ses concerts pour chanter une de ses chansons. Pas une chanson de Prince, hein, une chanson de Liane Lahavas, Lost and Found, offerte aux milliers de spectateurs venus voir Prince au Hollywood Palladium le 8 mars 2014 et dont vous venez d'entendre un extrait d'une version studio, la version live en question n'étant pas de très bonne qualité. Alors il n'y a malheureusement pas de version vidéo disponible, sans doute compte tenu de l'extrême propension qu'avait Prince à protéger ses différentes apparitions scéniques ou télévisuelles. Pas de trace non plus de son passage au Saturday Night Live en novembre 2014, où Liane Lahavas chante avec lui sur Clouds, issu d'un des derniers disques du Kid de Minneapolis, sur lequel elle apparaît deux fois, et évidemment, impossible de voir la moindre image de cet incroyable concert donné en direct du salon de Liane Lahavas, toujours en 2014. Alors il serait injuste de dire que c'est Prince qui l'a fait connaître, car avant cette rencontre, aussi importante soit-elle, Liane Lahavas commençait déjà à trouver sa place dans le paysage musical. On l'a dit, elle avait signé dès 2010 chez Warner, et on va la retrouver sur la BBC dans le programme musical phare Later with Jules Holland, et fera la première partie de Bon Hiver sur sa tournée nord-américaine dès 2011. Ça peut paraître curieux d'ailleurs de tourner avec Bon Hiver quand on est une artiste étiquetée soul, mais c'est justement le piège dans lequel il ne faut pas tomber, le background musical de Liane Lahavas n'étant pas cantonné à la seule soul. Et si la filiation avec Radiohead n'est toujours pas évidente à ce moment-là, certaines de ses collaborations commencent à aller un peu dans ce sens, notamment quand elle chante en 2014 sur un morceau du groupe anglais Alt-J. Dryden skater for jumping boys from the nape of her neck he made his descent they watched men hurl from rock to sea like sternum to bottom line that pinches in between C'était un extrait de Warm Foothills d'Alt-J sur leur second album. Gageons d'ailleurs que sur Spotify, Liane Lahavas n'est même pas créditée alors qu'elle apporte une vraie chaleur, un vrai souffle très différent en contrepoint à la froideur un peu clinique d'Alt-J. Arrive 2015 et l'enregistrement de son deuxième disque, Blood. Alors si le disque est toujours catégorisé dans la musique soul R&B, c'est un album bien plus varié que ça. Plusieurs chansons sont inspirées de ses voyages en Jamaïque sur les traces de ses origines, et s'il n'y est heureusement pas question de reggae, on constate une vraie évolution stylistique. Des sonorités plus électriques, des basses qui claquent, et puis un jeu de guitare, en l'occurrence le sien, fait par moments de petits arpèges qui ne sont pas, sans rappeler, un certain groupe anglais. Écoutez par exemple le tout début de la chanson « Tokyo ». Je surinterprète peut-être, mais j'y entends là, en tout cas sur le début du morceau, une vraie influence de Radiohead, et la suite me donnera, je pense, un peu raison. Alors toujours est-il que son succès grandit de semaine en semaine, et son passage en première partie de Coldplay en 2016 lui permettra de conquérir un public toujours plus grand. On trouve même des vidéos où elle reprend « Sometimes it snows in April » de Prince avec Chris Martin. Mais le meilleur est à venir, puisqu'à mon sens, c'est son troisième album, Liane La Havas, qu'elle produit seule, en 2020, qui est de loin le plus abouti. Peut-être parce que c'est avec celui-ci que je l'ai découverte, mais l'ensemble est d'une beauté prodigieuse. Pas complètement soul, pas tout à fait folk, mais en tout point, brillant. Les critiques sont dithyrambiques, et on parle d'elle comme d'une voix de velours au lent vibrato envoûtant, portée par un cocktail épuré de folk, pop, soul et de musique caribéenne. Alors écoutez-moi ce rythme lascif et traînant, absolument irrésistible, rappelant la chaleur de la voix de Sade, tout ça sur des arpèges de guitare glissants, alors au second plan certes, mais avec une vraie petite vibe Johnny Greenwood. Je sais pas vous, mais moi il y a peu de trucs que je trouve aussi beau que ce morceau, Paper Thin, qui est le morceau qui m'a définitivement conquis. On est loin de Radiohead, mais c'est pourtant sur ce troisième album qu'on trouve sa reprise de Weird Fishes. Sa cover n'est pas là par hasard, elle la joue sur scène depuis ses débuts ou presque, et ce pour une très bonne raison, elle considère Kin Rainbows est un des plus grands albums de l'histoire.
Weird Fishes est le genre de chanson où on peut fermer les yeux et être transporté immédiatement.
Et sur ce point, je suis évidemment d'accord avec elle. Elle rajoute dans une interview qu'elle aime particulièrement les parties de guitare constituées d'accords et d'arpèges qu'elle adore. Alors c'est jamais évident de reprendre Radiohead, encore moins sur une chanson aussi « bizarre » entre guillemets, mais elle sait parfaitement se l'approprier sans dénaturer l'intention originale. C'est très bien produit, la ligne de basse est dingue, et si d'aventure on nous l'envoyait pour la traiter dans Super Cover Battle, eh ben je serais ravi de la défendre pour la classer très très haut. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans un premier temps déjà, écoutez cette fabuleuse reprise. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Sacha pour ta participation. Merci à Dame pour avoir prêté ta voix aux journalistes du NMI. Et merci à Mélodie, une fois encore, pour avoir bonifié l'épisode par ta voix. Je vous laisse avec la fabuleuse Liane Lahavas. Si tout ça ne vous a pas plu, je ne peux plus rien pour vous. Et si, comme je le souhaite, vous avez aimé, il y a pléthore de vidéos sur YouTube, notamment deux participations au Tiny Desk Concert, ses prestations en tout petit comité, où elle irradie la caméra par son sourire et par son talent. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Salut! In the deepest ocean, the bottom of the sea, your eyes, they turn me, why should I stay? Crazy not to follow where you lead. Your eyes, they turn me. Turn me on to phantom.
Picked over by the worms and weird fishes, weird fishes, weird fishes.
Je vous disais tout à l'heure que la chanson Reconner de Radiohead avait été inspirée par John Frusciante. En voici la preuve avec un bout d'interview de Thom Yorke qui dit en substance avoir beaucoup aimé le jeu de guitare de Frusciante lorsqu'il avait vu les Red Hot Chili Peppers en live et que la guitare sur Reconner était donc une sorte d'hommage envers lui et sa façon de jouer. Je vous laisse écouter ça, et cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à très vite. Salut.
Anyway, the funny thing was that to be honest, like the guitar on it was really influenced by went to see the Chili Peppers a few times, and I really like the way John Frusciante plays, and it was sort of a homage to that in my sort of clunky, can't really pick kind of way.
Okay, and this is it. Radiohead.